France Inter.
Les admirations littéraires de Laurent Stocker. Pour cette troisième émission, avec la complicité
de Yaël et Ladad,
nous allons lire de la poésie aujourd'hui. Alors, pourquoi lire de la poésie aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout simplement pour refuser que le monde se réduise à son bruit. C'est réintroduire dans nos journées un espace où les mots ne servent plus seulement à convaincre, à commenter, à ordonner, mais à respirer. La poésie ne dit pas forcément ce qu'il faut penser, mais ce que l'on n'ose plus sentir. Elle nous rend à nous-mêmes, dans toute la complexité qui fait un être vivant. Et puis, il y a Aragon, que j'ai choisi aujourd'hui. Lire Aragon aujourd'hui, c'est lire un homme qui a traversé les violences du XXe siècle, qui les a vues, senties, combattues, et qui a compris que seule une langue habitée peut tenir tête au désastre. Dans ses poèmes de guerre, par exemple, tout résonne tristement avec notre présent. L'exil, les villes détruites, les vies suspendues, la peur, l'attente, les séparations. Mais Aragon ne se contente pas de témoigner. Il oppose à la brutalité une énergie de beauté, de musique, d'amour, comme si chaque vers était une façon de dire « Vous ne nous ôterez pas notre humanité ». Et puis, il y a l'autre Aragon que j'ai envie de vous faire entendre, celui qui s'avance jusqu'au plus intime. L'amour, le désir, la fidélité inquiète, l'effondrement intérieur qu'on cache sous un manteau impeccable. Cet Aragon-là parle à chacun d'entre nous, parce qu'il dit ce que l'on ne sait pas formuler. Les régions secrètes où loge la peur d'aimer, la joie d'être aimé, l'inquiétude d'être aimé, l'inquiétude d'exister même, le besoin d'être reconnu dans toute sa vérité. Alors, lire Aragon aujourd'hui, c'est lire quelqu'un qui embrasse le monde et l'âme. Un poète qui a tout traversé et qui nous offre des mots pour traverser notre propre époque. Des mots pour ne pas renoncer, des mots pour comprendre, des mots pour tenir. La poésie, au fond, ne sert pas à fuir le réel. Je crois qu'elle sert à l'habiter pleinement. Et Aragon demeure l'un de ceux qui nous montrent la route. Et cette route, on va commencer avec la Diane française. Un de ses textes emblématiques. La Diane française, c'est un livre de guerre, mais c'est une guerre qui ne renonce jamais à la beauté du verbe. Écrit clandestinement, c'est un recueil où Aragon transforme la résistance en poésie. Il y mêle la douleur, le courage et l'espérance, comme si chaque vers recherchait à réveiller, à sonner la Diane, l'appel au sursaut. Lire ce livre, donc, c'est entendre battre le cœur de la France occupée, un cœur qui n'a jamais cessé de croire en la liberté. L'avenir de l'homme est la femme.
Elle est la couleur de son âme.
Elle est sa rumeur et son bruit.
Et sans elle, il n'est qu'un blasphème.
Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes, qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin ? Eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux.
Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela, sans savoir, nous regarde passer. Répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux.
Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur.
Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri.
Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri.
Et pas plus que de toi l'amour de la patrie.
Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs.
Il n'y a pas d'amour heureux. mais c'est notre amour à tous les deux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour.
C'est notre amour, à tous les deux.
Les admirations littéraires, Laurence Decoeur, sur France Inter.
Maintenant, je vais vous lire un morceau du Fou d'Elsa. Avec le Fou d'Elsa, Aragon compose un vaste poème-roman où l'amour et l'histoire se mêlent intimement. L'Andalousie de 1492, la chute de Grenade, l'expulsion des Juifs et des Arabes deviennent la scène d'un chant épique et lyrique. Le poète y fait dialoguer les siècles pour dire que les civilisations meurent parfois, mais que l'amour ne cesse jamais d'inventer ses formes. Alors la petite anecdote, c'est que quand je suis rentré au conservatoire en 1993, les poèmes pour le concours étaient interdits. Et moi, j'avais ce poème en tête parce que je trouvais qu'il était magnifique et que surtout, il me parlait. Et donc, quand je me suis présenté devant le jury, j'ai dit que j'allais faire Safar, dans « Au Mont-Torrent », une pièce de Louis Aragon. Alors j'ai senti un brouhaha, j'ai senti que les gens étaient un peu interloqués, mais ils ont dit « Bon, alors il y a une pièce d'Aragon qui s'appelle « Au Mont-Torrent » et il fait le rôle de Safar, d'accord ? » On est parti là-dessus. Et j'ai présenté ça aux deux tours du conservatoire et personne n'y a vu que du feu, puisque personne ne m'a jamais dit « Mais en fait, c'était un poème et c'était interdit. » Il y a des choses que je ne dis à personne, alors... Elles ne font de mal à personne, mais le malheur sait que moi. Le malheur sait que moi, ces choses, je les sais. Il y a des choses qui me rongent la nuit. Par exemple, des choses comme comment dire, comment, des choses comme des songes. Et le malheur sait que ce ne sont pas du tout des songes. Il y a des choses qui me sont tout à fait, mais tout à fait insupportables, même si je n'en dis rien, même si je n'en dis rien. Comprenez-moi bien. Alors parfois ça vous étouffe. Regardez-moi bien. Regardez ma bouche, qui s'ouvre et ferme et ne dit rien. Pensez seulement d'autres choses. Songez à voix haute et de moi. Mots sortent de quoi je m'étonne, qui ne font de mal à personne, au lieu de quoi j'ai peur de moi, de cette chose en moi qui parle. Je sais bien qu'il ne le faut pas, mais que voulez-vous que j'y fasse ? Ma bouche s'ouvre et l'âme est là qui palpite, oiseau sur ma lèvre. Oh, tout ce que je ne dis pas, Ce que je ne dis à personne. Le malheur, c'est que cela sonne et cogne obstinément en moi. Le malheur, c'est que c'est en moi, même s'il n'en sait rien, personne. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Parfois, je me le dis, parfois, il vaut mieux parler que se taire. Et puis, je sens se dessécher ces mots de moi dans ma salive. C'est là le malheur, pas le mien. Le malheur qui nous est commun, épouvanté des autres hommes, et qui donc t'eût donné la main, étant donné ce que nous sommes. Pour peu que tu l'aies dit, cela qui ne peut prendre forme, cela qui t'habite et prend forme, tout au moins qui est sur le point qu'écrase ton poing, et les gens, que voulez-vous dire, tu te sens comme, tu te sens bête en face des gens. Qu'étais-je ? Qu'étais-je à dire, ah oui, peut-être qu'il fait beau, qu'il va pleuvoir, qu'il faut qu'on aille. Ou donc, même cela, c'est trop. Et je les garde dans les dents, ces mots, de peur qu'ils signifient, ne me regardez pas dedans. Qu'il fait beau, cela vous suffit. Je peux bien dire qu'il fait beau, même s'il pleut sur mon visage. Croire au soleil quand tombe l'eau, s'il pleut, tant pis l'orage. Les mots dans moi meurent si fort, qui si fortement me meurtrissent. Les mots que je ne forme pas, est-ce leur mort en moi qui mord ? Le malheur, c'est savoir de quoi je ne parle pas à la fois et de quoi, cependant, je parle. C'est en nous qu'il nous faut nous taire. Maintenant, nous allons lire Le fou d'Elsa, toujours, mais le poème Elsa. Et en fait, c'est un poème qui a beaucoup compté pour moi parce que, à l'époque, quand je suis arrivé à Paris, vers 16 ans, j'étais fan de Léo Ferré. Et je ne connaissais pas Aragon. Si je n'avais pas écouté les chansons de Léo Ferré, je n'aurais peut-être jamais rencontré Aragon dans l'écriture. Et donc là, une des premières chansons que j'ai écoutées d'Aragon, c'était Elsa.
Suffit-il donc que tu paraisses ? De l'air que te fait rattachant tes cheveux ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin.
C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble.
Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble.
Pour la première fois ta bouche.
Pour la première fois ta voix.
D'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche.
C'est toujours la première fois.
Quand ta robe en passant me touche.
Ma vie, en vérité, commence
le jour où je t'ai rencontré,
toi dont les bras ont su barrer
sa route atroce à ma démence
et qui m'a montré la contrée
que la bonté seule ensemence.
Tu vins au cœur du désarroi
pour chasser les mauvaises fièvres
et j'ai flambé comme un genièvre
à la Noël entre tes doigts.
Je suis né vraiment de ta lèvre. Ma vie est à partir de toi.
Les admirations littéraires. Laurence Decoeur, sur France Inter.
Alors maintenant, je vais vous lire un morceau du roman inachevé. Le roman inachevé est un des premiers livres les plus intimes d'Aragon. C'est, je pourrais dire, en quelque sorte, son autoportrait poétique. C'est un récit de vie, de jeunesse, d'engagement et de doute. Tout y est mouvement et confession. Lire ce texte, c'est suivre un homme qui, au fil du vers, tente de comprendre le sens de sa propre histoire et la place qui tient le poème. Ça s'appelle « Ô forcené ». Ô forcené qui chaque nuit attend l'aube, et ce n'est que l'aube, une aube de plus, une pâleur qui s'installe, et la fatigue, et tout ce qu'on s'était imaginé de folie et de lumière s'évanouit dans ce sentiment de lassitude. Ô forcené qui se débat chaque nuit dans les lieux communs qu'il s'est construit, les dilemmes abstraits et les chants sourds qui peuplent l'âme de fantômes, de fontaines. Ô forcené qui partait pourtant à la recherche d'une autre vie, ô croisée d'un rêve moderne au bout duquel il y avait le contraire d'un sépulcre, Lui pensait prendre la bure et le bourdon peut-être comme des ailes des magies, mêlant l'eau du Jourdain à les princesses lointaines, forcenées des songeries. Forcené qui ressemble à tous les icares, à tous les écarts du destin, qui se croit fait pour soulever le voile de démence au-dessus on ne sait de quelle Amérique, quelle terre ou quelle phalanstère. Ô forcené qui ne se voit pas à l'heure des laitiers, traînant par les rues, misérable et défait, malheureux, misérable. Ô toi qui tends ta paume, mendiant perpétuel, à des gens qui n'en veulent pas, tes semblables, tes frères, forcenés. Forcené qui fait semblant de t'en tirer en ricanant, en blasphémant, tu garderas pour toi l'histoire de tes humbles démarches, prêt à tout accepter, tout donner, tout détruire de toi s'il le faut, tout détruire. Et qu'as-tu rencontré? Quelle dérisoire exigence! Alors tu fais celui qui s'en moque à mourir, qui allait mourir, la corde était prête, et puis que voulez-vous, ce sont ses parents de province qui sont venus. Et pourquoi fallait-il qu'ils vinssent, qu'ils restent là, parlant, parlant, parlant sans fin, parlant, parlant, parlant si bien qu'on ne peut pas se pendre avant leur départ, ne serait-ce que par politesse. Ô forcené qui me ressemble, écoute, une dernière fois, écoute. Cette histoire que tu ne raconteras jamais, jamais, tu la connais de bout en bout, tu la connais toute. Un jour peut-être, un jour se lèvera, pour la première fois, et que ce soit sur une vraie terre sainte ou le vrai paradis terrestre. Un jour, si tu crois l'heure enfin sonner où les autres hommes te regarderont comme un des leurs, pour la dernière fois, je te le dis, ce ne sera qu'illusion, que leurre. Rien n'est possible qu'un mensonge, ils feront mine, écoute-moi, ce ne sera qu'une apparence, ils ne t'aimeront jamais, ils ne t'accepteront jamais comme un des leurs, et tu vivras longuement parmi eux, le sachant, le cachant, rien n'est changé, tu es toujours un étranger. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? Regarde-toi. Mais regarde-toi donc, maudit, si l'on t'accepte. Si l'on fait mine un jour de t'accepter, sache-le bien que c'est pour quelque raison qui n'est pas de toi passagère et feinte. On ne peut t'aimer, tu le sais, que des lèvres. Va, va, du moins conscient de n'être que le jouet d'un calcul. Accepte, si tu veux, le calcul des autres, leur calcul, juste ou faux, dont dépend l'avenir. Mais sache pour la dernière fois, forcené, que tu ne seras jamais qu'une poussière dans l'œil des hommes. Toi qui gardes pour toi seul ton histoire de mendiant, le loin du compte de tes jours, tes offrandes rabrouées, et maintenant jamais si l'on prenait ta main, ce ne serait comme si la première fois on l'avait prise. Même si tu oublies, si tu te laisses calmer, si tu te laisses porter, porter au large par la mer, rappelle-toi qu'elle est perfide et que jamais tu n'en connaîtras le fond profond. Quelle est la mer ? Même quand elle est douce et tranquille à l'infini, la mer, rien d'autre. Et que veux-tu que la mer soit d'autre que la mer, à l'heure des laitiers misérables? Non mais regardez-moi ce fou qui croit faire un grand cadeau du cœur et de ses rêves, ce dément qui propose de sacrifier ses doutes et ses chants, tout ce qui lui reste d'un long désordre ancien, de plier sa musique au cri qui la fait dissonante, au vent qui la disperse à l'oubli, de l'aube au jour qui vient. À l'heure des laitiers, toujours, tu te réveilleras, toi, qu'on ne peut t'aimer. Toi, qui me ressemble.
J'ai choisi ce texte parce que j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on doit tous être des forcenés. Dès qu'on se réveille le matin jusqu'au soir, on est toujours dans une espèce de lutte, surtout quand on habite dans les villes. Il y a un côté métropolis, il y a un côté comme dans le film de Lang. Et ça a à voir avec ça. Il faut se battre. On va maintenant lire un poème qui est dans l'ouvrage Le Crève-Cœur. Ça s'appelle Le Temps des mots croisés. C'est un recueil sur la période la plus sombre de la guerre. Le Temps des mots croisés est un moment de lucidité poignante. Aragon y dit la rupture, les blessures, les mots brisés. Le poème devient un moyen de tenir, de reconstruire une vérité quand le monde semble n'en avoir plus. Et moi qui suis originaire de cette région terrible de la Meuse, en Lorraine, où il y a eu Verdun, où il y a eu... J'ai été habité, quand j'étais enfant, par tous ces récits, y compris celui de mon arrière-grand-père, qui avait fait Verdun, malheureusement, qui avait connu la tranchée des baïonnettes et toutes ces atrocités. Et il me reste en mémoire un squelette, qui est une sculpture, un squelette de Ligier Richier, dont Aragon parle dans le poème qu'on va vous lire. Et c'est un homme qui est décharné, et qui tient son cœur dans la main et qui regarde son cœur. Le temps des mots croisés.
Au soleil de minuit, sans sommeil, solitude, dans les logis déserts d'hommes où vous veillez, épouses d'épouvante, elles font leur étude, des monstres grimaçant autour de l'oreiller.
Qui donc a déchaîné la peur, cette bannie, et barbouille de bleu panique les carreaux. Le sable sous le toit, dans le cœur l'insomnie, personne ne lit plus le sort dans les tarots.
Sorcier, vous pouvez danser dans la bruyère. Elles ne veulent plus savoir si tu leur mens, amour, qui les courba mieux qu'aucune prière, quand la gare de l'Est tu mangeais leurs amants.
Femmes qui connaissaient enfin comme nous-mêmes le paradis perdu de nos bras dénoués, entendez-vous nos voix qui murmurent « je t'aime » et votre lèvre à l'air donne un baiser troué.
Absence abominable, absinthe de la guerre, n'en es-tu pas encore amèrement grisée? Nos jambes se mêlaient, t'en souviens-tu, naguère, et je savais pour toi ce que ton corps faisait.
Nous n'avons pas assez chéri ces heures doubles, pas assez partagé nos songes différents, pas assez regardé le fond de nos yeux troubles, et pas assez causé de nos cœurs concurrents.
Si ce n'est pas pourtant pour que je te le dise, pourquoi m'arrive-t-il d'entendre ou de penser, si les nuages font au jour des mèches grises et si les arbres noirs se mettent à danser?
Écoute dans la nuit mon sang bas et t'appelle. Je cherche dans le lit ton poids et ta couleur.
Faut-il que tout m'échappe, et si ce n'est pas elle, que me fait tout cela? Je ne suis pas des leurs.
Je ne suis pas des leurs, puisqu'il faut pour en être s'arracher à sa peau vivante comme à barre. L'homme de Ligier qui tend vers la fenêtre, squelette par en haut, son pauvre cœur barbare.
Je ne suis pas des leurs, puisque la chair humaine n'est pas comme un gâteau qu'on tranche avec le fer, et qu'il faut à ma vie une chaleur germaine qu'on ne peut détourner le fleuve de la mer.
Je ne suis pas des leurs, enfin, parce que l'ombre est faite pour qu'on sème et l'arbre pour le ciel.
Et que les peupliers de leurs semences encombrent le vent porteur d'amour, d'abeilles et de miel.
Je suis à toi, je suis à toi seul. J'adore la trace de tes pas, le creux où tu te mis. Ta pantoufle perdue ou ton mouchoir, va, dors. Dors, mon enfant craintif, je veille, c'est promis.
Je veille, il se fait tard. La nuit du Moyen-Âge couvre d'un manteau noir cet univers brisé. Peut-être pas pour nous, mais cessera l'orage. Un jour, et reviendra le temps des mots croisés.
Alors maintenant, on va vous lire un poème que j'affectionne particulièrement. C'est dans le roman inachevé aussi, c'est sur Manouchian, qui a été panthéonisé il n'y a pas très longtemps, donc c'est un hommage à cette résistance-là pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça s'appelle « L'affiche rouge ».
Vous n'avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants.
Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement
« Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. »
Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses. Adieu la vie. Adieu la lumière et le vent. Marie-toi. Sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en érivant.
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. »
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient le cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Alors ça, c'est un texte que j'aime bien aussi parce que c'est chanté par Léo Ferré. Alors, Léo Ferré a chanté beaucoup de textes d'Aragon et à chaque fois que je les lis sans les chanter, il me vient quand même cette petite musique. « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?»«
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?»
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays.
Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes nuits? Que faut-il faire de mes jours? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meure. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Elle était brune, elle était blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence, elle travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Miracle. Reveal yourself to me. Miracle. Your help could set me free. Miracle from above.
Les admirations littéraires, Laurence Tucker, sur France Inter.
Alors, le dernier texte pour cette émission, c'est tiré de l'épilogue du Fou d'Elsa. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que, même si je l'ai appris il y a très longtemps quand j'étais jeune, c'est un texte qui parlait déjà de la vieillesse et de ce temps qui passe. Comme je suis comédien, je suis tout le temps dans le présent. Alors, c'est un très beau texte, je trouve, sur la vieillesse et sur ce qu'on peut transmettre aux jeunes et à la génération future. Épilogue. Je me tiens sur le seuil de la vie et de la mort, les yeux baissés, les mains vides. Et la mer dont j'entends le bruit est une mer qui ne rend jamais ses noyés. Et l'on va disperser mon âme après moi, vendre à l'encan mes rêves broyés. Voilà déjà que mes paroles sèchent comme une feuille à ma lèvre humide. J'écrirai ces vers à bras grands ouverts qu'on sente mon cœur quatre fois y battre. Quitte à en mourir, je dépasserai ma gorge et ma voix, mon souffle et mon chant. Je suis le faucheur, ivre de faucher, qu'on voit dévaster sa vie et son champ, et tout haletant du temps qu'il y perd, qui bat et rebat sa faux comme plâtre. J'ai choisi de donner à mes vers cette envergure de crucifixion. Et quand tombe au hasard la chance n'importe où sur moi le couteau des césures, il me faut bien, à la fin des fins, atteindre une mesure à ma démesure pour, à la taille de la réalité, faire un manteau de mes fictions. Cette vie aura passé comme un grand château triste que tous les vents traversent. Les courants d'air claquent les portes et pourtant aucune chambre n'est fermée. Il s'y assied des inconnus, pauvres et là, qui sait pourquoi certains armés. Les herbes ont poussé dans les fossés si bien qu'on n'en peut plus baisser la herse. Dans cette demeure, en tout cas, ancien ou nouveau, nous ne sommes pas chez nous. Personne, à coup sûr, ne sait ce qui le mène ici, tout peut-être n'est qu'un songe. Certains ont froid, d'autres ont faim, la plupart des gens ont un secret qui les ronge. De temps en temps passent des rois sans visage, on se met devant eux à genoux. Quand j'étais jeune, on me racontait que bientôt viendrait la victoire des anges. Ah, comme j'y ai cru, comme j'y ai cru, puis voilà que je suis devenu vieux. Le temps des jeunes gens leur est une mèche, toujours retombant dans les yeux, et ce qu'il en reste aux vieillards est trop lourd et trop court, que pour eux le vent change. Ils s'interrogent sur l'essentiel, sur ce qui vaut encore qu'on s'y voue. Ils voient le peu qu'ils ont fait parcourant ce chantier monstrueux qu'ils abandonnent. L'ombre préférée à la proie, ô pauvres gens, l'avenir qui n'est à personne. Petit qui jouait dans la rue, enfant, quelle pitié sans borne j'ai de vous. Je vois tout ce que vous avez devant vous de malheur, de sang, de lassitude. Vous n'aurez rien appris de nos illusions, rien de nos faux pas compris. Nous ne vous aurons à rien servi, vous devrez à votre tour payer le prix. Je vois se plier votre épaule, à votre front, je vois le pli des habitudes. Bien sûr, vous me direz que c'est toujours comme cela, mais justement, songez à tous ceux qui mirent leurs doigts vivants, leurs mains de chair dans l'engrenage pour que cela change, et songez à ceux qui ne discutaient même pas leur cage. Est-ce qu'on peut avoir le droit au désespoir, le droit de s'arrêter un moment ? Et vienne un jour, quand vous aurez sur vous le soleil insensé de la victoire, rappelez-vous que nous avons aussi connu cela, que d'autres sont montés, arrachés le drapeau de servitude à l'acropole et qu'on les a jetés. Eux et leur gloire, encore haletant dans la fosse commune de l'histoire. Songez qu'on n'arrête jamais de se battre, et qu'avoir vaincu n'est trois fois rien, et que tout est remis en cause du moment que l'homme de l'homme est comptable. Nous avons vu faire de grandes choses, mais il y en eut d'épouvantables, car il n'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Vous passerez par où nous passâmes naguère. En vous, je lis à livre ouvert. J'entends ce cœur qui bat en vous comme un cœur, me semble-t-il, en moi batté. Vous l'userez, je sais, comment et comment cette chose en vous s'éteint, se tait. Comment l'automne se défarde et le silence autour d'une rose d'hiver. Je ne dis pas cela pour démoraliser. Il faut regarder le néant en face pour savoir en triompher. Le chant n'est pas moins beau quand il décline. Il faut savoir ailleurs l'entendre qui renaît comme l'écho dans les collines. Nous ne sommes pas seuls au monde à chanter, et le drame est l'ensemble des chants. Le drame, il faut savoir y tenir sa partie. Et même qu'une voix se taise, sachez-le toujours, le cœur profond reprend la phrase interrompue. Du moment que jusqu'au bout de lui-même, le chant a fait ce qu'il a pu. Qu'importe si, chemin faisant, vous allez m'abandonner comme une hypothèse. Je vous laisse à mon tour comme le danseur qui se lève une dernière fois. Ne lui reprochez pas dans ses yeux s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre. Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre. Homme de demain, soufflez sur les charbons. À vous de dire ce que je vois. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge.
Prise de son, Pauline Laverdure.
Réalisation, Stéphane Ronxin. C'était Louis Aragon et sa poésie.